Salut et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Ce sont des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Émilien Badou, que l'on ne présente plus aux amateurs de glisse. Pour rencontrer ce champion du monde de freeride, il a fallu prendre la route et surtout de la hauteur, vu qu'on a enregistré cet épisode au Diableret. Une magnifique rencontre que je suis impatient de partager avec vous. Voici l'aventure, un podcast LFM. Je m'appelle Guillaume Jetta. Bienvenue.
LFM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Jetta.
Je m'appelle Émilien Badou, j'habite en Valais, j'ai 37 ans. Et je fais du snowboard, on va dire, à niveau professionnel depuis une vingtaine d'années. C'est une passion qui diminue pas avec l'âge, on va dire.
C'est venu comment, d'ailleurs, dans ta vie, le snowboard ?
J'ai mon grand frère qui a dû bringuer mes parents pendant au moins un an ou deux pour faire du snowboard. Donc au début, on faisait du ski. Et il m'a prêté une fois son snowboard. J'avais encore les chaussures de ski et j'ai essayé. Et toute la première piste, je suis même pas tombé.
Donc Sur ta première tentative.
Ouais, ma première tentative, je suis pas tombé.
Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ça et qui vont être jalouses.
Peut-être, mais je suis tombé après, je vous rassure. Mais la première, en tout cas, je suis pas tombé. Donc c'était une révélation. J'ai fait, et puis c'était cool, vu que mon grand frère a fait un peu le chemin. Du coup, ça a été plus facile pour moi d'acheter un snowboard et de m'y mettre. Donc j'ai été un peu dans la première génération à faire du snowboard très jeune. Donc j'ai commencé à 9 ans. Et alors que maintenant les jeunes ils commencent même un peu plus tôt, mais
oui, on en voit parfois sur les pistes.
Voilà,
c'est vraiment
en train d'évoluer. Moi, j'ai vraiment vécu cette période du snowboard qui était en totale évolution, où une figure, c'était presque voilà, on voyait quelqu'un la faire pour la première fois, où on pouvait même encore en inventer des nouvelles. Donc c'était et on savait pas où était la limite, quoi. Maintenant, c'est la progression du snowboard est incroyable. En freestyle, on est passé de un backflip à 4 backflips, quoi. Donc, mais d'avoir été dans la découverte de ce sport, c'était génial. C'était vraiment une belle aventure.
Tu parles d'évolution du snowboard. Pour certaines personnes, ça va sembler un peu absurde, mais Instagram n'a pas toujours existé. À cette époque-là, tu voyais comment les nouvelles figures, ce genre de choses, comment est-ce qu'on se comparait, en fait, un petit peu? Comment on progressait?
Ouais, le monde a vraiment changé vis-à-vis de ça. Avant, on sortait une vidéo par année. Européennes ou quelques-unes américaines, et puis c'est ça qu'on suivait. Il y avait quelques magazines, donc moi j'ai été pro assez jeune. Et mon
pro
job,
à partir de quel âge?
16 ans, on va dire, où j'ai fait que ça pendant quelques années. Et là, mon job, c'était de me retrouver dans quelques magazines et puis d'avoir une part dans une vidéo de quelques minutes. Et en fait, c'était que ça, notre job. Et au début, quand Instagram ou Facebook est arrivé, on s'est dit « Ah, maintenant, on a plus de jobs, on nous demande plus de photos, plus de trucs. » Et au début, ça a paru être un peu un désavantage. Et puis maintenant, après, comme on voit l'influence que ça a, moi j'ai presque envie de dire qu'Instagram, ça a remplacé les journaux ou les magazines ou les vidéos. Donc maintenant, moi je peux créer ma propre vidéo, la poster, et puis elle buzz, et puis après j'ai des retours là-dessus. Donc ça demande du temps, c'est vrai, ça demande un peu plus qu'avant, mais du coup c'est aussi intéressant parce qu'on est un peu notre propre éditeur, quoi, on va dire.
T'as moins besoin d'intermédiaires, finalement.
Exactement, ouais. Avant, c'était... Surtout avec l'évolution des caméras, et même maintenant, un téléphone fait des super vidéos. Donc, ça a vraiment changé. Avant, il fallait toute une logistique. Il fallait déjà que le sponsor paye la production pour que tu puisses filmer pour eux. Et après, il fallait filmer avec eux, donc qu'ils soient libres. Enfin, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et maintenant, c'est devenu quand même plus accessible, on va dire, pour un peu n'importe qui, de faire une super vidéo et de poster ça sur Instagram.
À l'âge de 16 ans, tu fais que du snowboard à ce moment-là, quand tu passes pro, ou tu poursuis une formation à côté, parce que c'est quand même l'hiver. Du coup, est-ce que tu rides l'été dans d'autres pays, ou à ce moment-là, tu jongles entre plusieurs activités?
J'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de bons résultats en compétition halfpipe en étant à l'école. Et du coup, dès que l'école obligatoire était finie, mes parents ont accepté que je fasse une année sabbatique. Et moi, j'ai toujours été attiré aussi par les voyages. Donc l'été, j'ai bossé un mois pour me récolter des sous. Et après, je suis parti à Madagascar tout seul pendant un mois sur une île. Et en même temps, je ridais les camps d'été. Je faisais aussi toute une saison. On ridait beaucoup plus toute l'année que maintenant. Maintenant ma carrière c'est plus le freeride, donc il faut de la poudreuse, donc Mais avant, on allait beaucoup sur les glaciers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, durant tout l'été. Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, donc, tu dis maintenant c'est un peu plus freeride. À l'époque, c'était un peu plus halfpipe, c'était plutôt différentes disciplines qu'on retrouvait plus sur les pistes, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais. Il y avait beaucoup plus de stations qui étaient ouvertes hors saison. Et puis, c'est, vu que je faisais du freestyle, eh ben, on s'entraînait dans les halfpipes et les snowparks. Et c'était comme ça toute l'année.
Emilien, c'est quoi pour toi l'aventure avec un grand A ?
Ouais, alors, parce que pour moi, il y a deux types d'aventures. Mais j'ai envie de dire, celle avec le grand A, c'est quand en fait, je suis un flow, je suis un peu mon cœur. Et je me dis, j'ai envie de faire ça, mais je planifie rien du tout. Et je sais que c'est quand je planifie rien que je vais me faire surprendre par la vie et puis que je vais être beaucoup plus dans le présent et avoir des choses qui ne sont même pas prévues, qui vont m'arriver. Et souvent, elles sont au-delà de mes espérances. Donc, depuis que je me fais vraiment confiance, j'aime bien cette aventure où, par exemple, tu achètes juste un billet d'avion et c'est tout, quoi. Je regarde même pas sur Internet où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Je me laisse vraiment planer sur le flow, quoi, où la vague ou bien où la neige va t'amener.
Donc là, en ce moment, par exemple, c'est quelque chose que tu ferais. Donc, tu prendrais un ticket pour quelque part, que ce soit en train ou en avion. Tu pars et puis tu t'improvises sur place.
Ouais, j'aime bien comme ça, j'aime bien pas trop planifier. Pour moi, ça enlève tout le fun, et puis surtout j'ai une idée dans ma tête, mais c'est juste une espérance de quelque chose, mais j'y mets pas trop d'intention, parce qu'à partir du moment où tu planifies tout, t'as vraiment, t'espères avoir certains résultats, et puis c'est ça des fois qui te fait perdre un peu le plaisir de ce que t'es en train de vivre, parce que t'avais trop d'attentes, en fait.
Est-ce que les attentes, justement, c'est le problème de manière générale dans les choses qu'on peut entreprendre, à tes yeux ?
Ouais, il faut pas trop se faire... pas trop mentaliser, pas trop se faire d'idées. Ça coupe le flow. En fait, le mental, c'est quelque chose qui veut programmer, qui veut mettre dans des cases les choses, alors que la vie, c'est plutôt comme une rivière qui coule et qui passe à gauche ou à droite d'un rocher au moment où le rocher apparaît. Et la vie, moi, je la ride pas mal comme ça. Justement, je pense que le surf, c'est un truc qui m'a pas mal aidé, parce qu'une vague, elle vient, mais d'une fois que tu te lèves, t'en sais rien de comment elle va casser, de comment elle va dérouler. Et j'essaye d'avoir des buts et précis. Hein, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je laisse la manière d'y arriver un peu me surprendre des fois. Ça peut paraître un peu pas professionnel pour certains trucs, mais moi, je pense que ça me met vraiment dans l'instant présent, dans l'écoute, parce que trop planifier des fois des choses, ça peut te faire faire une erreur ou t'as peut-être pas écouté le signe qu'il y avait à l'instant présent, quoi, qui convient pas à ce que toi, tu t'es imaginé dans ta tête.
T'as toujours fonctionné de cette manière ou c'est quelque chose d'assez récent ? Je me pose cette question parce que t'as quand même une carrière, justement, où il y a eu des sponsors, des compétitions, ce genre de choses. Et là, c'est très difficile, je pense, de faire abstraction des attentes, autant personnelles que celles qui peuvent être éventuellement mises de l'extérieur.
Bah, justement, quand tu m'as dit « parle-moi de l'aventure avec le grand A », j'ai envie de te dire « je mets celle-là avec le grand A » et l'autre aventure, ça serait celle où t'as un but et de toute façon, même si t'as tout planifié, il y a toujours des surprises. Donc ça reste toujours de l'aventure et sur ça, ben, comme je dis, moi j'ai toujours une idée dans ma tête, j'ai toujours une pensée et je finis toujours par y arriver, c'est ça qui est cool. En général, des fois même, ce qu'il faut, c'est pas renoncer en fait. Si ça s'est pas passé comme ça, ça se passera peut-être pas pendant les 5 prochaines années, mais tout d'un coup t'as oublié que t'avais envie de faire ça et tout d'un coup il s'y propose et là t'y vas. Et c'est ça, cette aventure, finalement, c'est d'avoir des buts, de jamais trop y renoncer, vraiment avoir beaucoup de persévérance et ouais, de se laisser surprendre, quoi, le plus possible.
Il y a une approche assez assez spirituel dans certains de tes mots et j'ai vu cette phrase, tu vas sûrement corriger parce que probablement que je la sors mal, mais où tu parlais des 20 dernières années sauf erreur, ou en tout cas un certain nombre d'années où pour toi, je sais pas si tu utilisais le terme aventure, mais tu parlais que ta vie, une grande partie en tout cas, s'était passée à l'extérieur, montagne, ce genre de choses, et que maintenant il y avait un trajet peut-être un petit peu plus intérieur, un peu plus spirituel, avec peut-être notamment le yoga que tu pratiques beaucoup. Est-ce que c'est juste déjà ce que je suis en train de dire?
Oui, ben ça, je pense que c'est quelque chose qui vient plus avec l'âge. Je veux dire, quand on est jeune, quand on est beau, tout va bien, on pense que à ce qu'on a envie de faire. Et des fois, l'âge apporte un peu plus de réflexion, un peu plus de sagesse aussi sur comment on entrevoit la vie. Et donc, on fonce un petit peu moins dans l'action et on se remet un peu plus en question. Et puis maintenant, des fois, ben, j'arrive à contrôler ou à voir des choses en moi que j'aurais pas vu avant. Et puis que je pense que c'est quelque chose, vu que, ouais, comme tu dis, je suis quelqu'un de spirituel. Moi, mon corps, à un moment donné, je vais le laisser, mais mon âme, elle va continuer. Donc, il y a aussi des choses sur le plan intérieur que j'ai envie de m'améliorer. Parce que si c'est que physique, et ben, ça va que décroître, vu qu'on va tous vieillir et mourir. Donc, j'ai envie de m'améliorer sur quelque chose sur le long terme. Donc, il faut à un moment donné mettre un petit peu moins que sur le physique et que sur les choses qui se réalisent à l'extérieur et plus sur des choses qui sont à l'intérieur, qui finalement se conservent jusqu'au dernier souffle, voire même après. Et j'en reviens sur un exemple où j'ai eu la chance de rider l'Obergabelland, qui était une montagne qui me faisait rêver. Et 24 heures après l'avoir fait, j'ai comme eu un vide. C'est parce que
Le fait de l'avoir accompli.
d'une fois que tu as fait quelque chose, après, il y a un vide. Donc, ça veut dire que quand même, la matière, c'est éphémère, quoi. Ça t'apporte des plaisirs éphémères. Alors que si tu arrives à conquérir des choses à l'intérieur, après, tu gardes une stabilité, une compréhension de comment tu réagis ou de comment tu vis.
T'en as fait quoi de ce sentiment, justement? Ce sentiment de vide?
Ouais, ben, c'est soit tu repars sur un autre projet, tu te dis, bon, ben maintenant j'ai envie de faire cette montagne. Et puis ça, je continue, hein, je suis pas du tout contre faire des choses à l'extérieur. Mais ouais, et finalement, ces vides, ces moments un peu de solitude, c'est des moments où tu te remets en question. Et puis ça peut être aussi des carrefours dans ta vie où tu te dis, ah, ben là, peut-être que je suis arrivé au mieux de ce que je pouvais faire, et c'est souvent moi ce que je fais quand j'ai atteint mon meilleur, je change, je fais un autre truc, un autre sport, une autre discipline, ou j'aime évoluer, quoi, j'aime découvrir, et c'est quand même pas mal dans la découverte qu'il y a l'aventure parce qu'on sait pas à quoi s'attendre.
En voyant ton parcours, j'ai essayé involontairement de faire des liens entre un peu tout, parce que c'est comme ça qu'un cerveau, je pense, fonctionne de manière générale. Le lien entre une descente en freeride et par exemple le yoga aujourd'hui, est-ce que dans les deux cas, il y a une forme de méditation? Est-ce que dans les deux cas, il y a une forme de pleine conscience de ce que tu es en train de vivre sur le moment? Est-ce que c'est conscientisable? Enfin, comment est-ce que toi, tu vois un peu ces deux disciplines antagonistes ou alors au contraire très très complémentaires?
Ah ouais, non, elles sont vraiment complémentaires. Hein. D'ailleurs, ça étonne des gens aussi. Ils regardent mes vidéos, ils voient que je descends tout droit, que je vais à fond, c'est comme si je vivais à 300 à l'heure.
Ouais, parce qu'il y a une notion de vitesse à ce moment-là,
Et
effectivement.
au yoga, tout est au ralenti, tout est dans la conscience. Mais au final, j'ai envie d'arriver au même but où, par exemple, là, j'enseigne et il faut, c'est comme la montagne. Tu as prévu ton cours ou tu as regardé ton parcours sur la montagne, mais d'une fois que tu es au sommet, tu sais que faut se faire confiance, tu sais quel est ton parcours ou à quoi va ressembler ton cours, mais après tout le reste, finalement, t'as plus besoin d'y penser, t'as plus besoin de mentaliser tout ça, il faut juste le vivre. Et c'est des choses qui se sentent, et moi je suis beaucoup dans le ressenti, et puis faire confiance à ces ressentis, et puis ça amène toujours un super flow, quoi. En général, c'est comme ça que t'es vraiment le plus dedans, que ce soit en yoga ou en freeride, c'est quand tu te laisse un peu surprendre et les envies que tu as sur le moment, mais tout en restant dans la bonne structure pour rester vraiment soit en sécurité en montagne ou soit dans la bonne ligne avec le yoga.
Tu parles d'enseignement. Quelles sont les valeurs importantes pour toi en ce moment lorsque tu dois encadrer quelqu'un?
Moi, j'ai envie que les gens, ils arrivent à se sentir eux-mêmes, qu'ils arrivent à sentir la paix, le calme, qu'ils sentent l'alignement. J'ai envie de pouvoir leur apporter quelque chose. Et de plus en plus, ça, c'est quelque chose qui a changé avec l'âge. Avant, je m'intéressais à mon bonheur, je m'intéressais à moi gagner ou à faire du yoga pour me faire du bien à moi. Et maintenant, j'ai du plaisir à avoir gagné d'autres personnes, peut-être sous mes conseils, ou à voir quelqu'un faire des progrès en yoga ou qui me dise, ah, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, je suis en train de transmettre et finalement d'avoir le même plaisir. c'est vraiment intéressant.
Tu accordes donc une importance aussi grande dans l'enseignement spirituel du coup que physique. Si tu encadres quelqu'un dans un sport, est-ce que les deux dimensions sont pour toi vraiment très liées dans la performance aussi?
Ouais, alors ouais, ça c'est une bonne question. Le freeride en fait c'est un sport qui est tellement vaste, il faut être bon en freestyle, en figure, il faut être bon en alpin, tout ce qui est technique de virage, et après il faut connaître la montagne, donc le côté alpinisme. Donc déjà là on est très complet, et puis en plus rien n'est... on peut pas mettre quelque chose dans un cadre, c'est pas comme faire des piquets ou... du coup, pour moi, le spirituel, là, il a encore beaucoup plus d'importance parce que finalement, tu peux aussi demander à la montagne de te montrer la ligne ou... Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans ce sport. Et pour moi, ça m'a vraiment fait évoluer. D'ailleurs, une fois, mon coach mental, il m'avait dit, mais en fait, ce que tu fais, ça me fait penser à ces tribus qui doivent monter sur une tour de 30 mètres. Et puis, celui qui gagne, c'est celui qui a trouvé la liane la plus courte. Ils doivent sauter de 30 mètres avec une liane attachée à la cheville. Et puis, celui qui s'arrête à 1 cm du sol sans le toucher, il gagne. Donc, en fait, on prend des risques énormes, mais ça nous force à aller chercher en nous le guerrier ou l'humain ou toutes ces choses. Et ça, finalement, c'est spirituel et physique. Il y a les deux. T'évolues sur les deux cadres, quoi. On n'est pas des machines, on est des âmes évoluant dans ce sport, quoi.
Comment tu vois ta pratique dans les prochaines années? Pratique donc du coup au sens relativement large, pas uniquement au niveau de la glisse, mais peut-être tes pratiques.
J'ai eu un déclic une fois à Bali, j'ai vu un type avec les cheveux gris, un peu un gros ventre, et il prenait pas trop de vagues, et tout d'un coup il y a eu une énorme vague et c'est lui qui l'a prise, quoi. Et là je me suis dit, moi je veux être comme lui, quoi. Peut-être pas avec le gros ventre et les cheveux gris, mais la grosse vague à 60 ans, je m'en vois bien la prendre, ouais. Et donc il y a des sports comme par exemple la compétition, j'ai arrêté quand j'étais au top, et c'est quelque chose que je suis vraiment content d'avoir arrêté tôt pour pas trop user mon corps pour continuer sur la durée. Donc maintenant c'est vrai que je vois plus la durée, je vais pas sauter sur chacune des corniches que je vais voir, je vais choisir la meilleure et celle qui me plaît, et donc c'est de la durée, j'ai envie de faire durer ça et puis montrer que du coup le yoga, et ben c'était vraiment le support qui m'a aidé à aller dans la durée, et cette conscience de ce que tu manges, de ce que tu vis, de comment tu penses même, et faire en sorte que ton esprit ne vieillisse pas et que tu restes comme quand tu avais 14 ans, là, passionné par les trucs, et puis continuer comme ça, quoi.
Pour terminer, même si ces belles paroles auraient pu être justement la ponctuation, est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose que tu as tout le temps sur toi ou qui représente beaucoup pour toi ? Tu parlais de ton âme qui ensuite continuera son chemin, donc sans l'enveloppe physique. Mais est-ce qu'il y a quand même un objet, quelque chose qui représente soit une victoire sur la vie, une victoire en compétition ou quoi que ce soit, ou au contraire, il n'y a rien comme ça qui te vient?
Non, j'en ai un, c'est une histoire assez sympa. D'ailleurs, on va me prendre vraiment pour un hippie 5. C'est les cristaux. J'en avais un autour du cou, d'ailleurs j'en ai trouvé deux, mais celui-là, on me l'avait offert. Et je l'avais mis autour du cou et je lui avais demandé, fais-moi gagner les compétitions et aussi protège-moi des dangers. Parce que quand on va faire l'extrême de Verbier, il y a plus de cailloux que de neige. Hein, donc, tu as envie d'éviter justement l'accident. Et je savais déjà qu'il prenait l'énergie. Donc déjà, je le sentais des fois, si j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, il chauffait, le cristal il chauffait. Des fois même, je devais l'enlever. Mais en fait, tu peux lui donner des informations. Et puis moi, je lui avais donné tout le temps la même information. C'est « protège-moi, fais-moi gagner ». Et le jour où j'ai gagné le World Tour, je me suis couché dans le lit à 6 heures le soir après être rentré. Et là, il s'est détaché. Le cristal s'est détaché. Il est tombé dans mon lit comme ça.
Il était donc autour de ton cou,
ouais,
toute la journée.
Autour de mon cou. Et là, l'attache que j'avais mis s'est détaché. Il est tombé. Il avait rempli sa mission. De plus, je ne l'ai plus reporté parce que c'était presque trop fort, quoi. Mais
tu as refait des compétitions depuis ?
Hein ?
Tu as refait des compétitions depuis ?
Ouais, j'ai refait, mais après ça a été un peu différent. Enfin, ce caillou, en tout cas, il a rempli sa mission. Donc, je lui ai fait, ok, toi, tu as rempli ta mission. Ok, merci. Et puis, maintenant, il est sur le pied du Bouddha au milieu de ma maison.
Donc, tu l'as gardé ?
Ouais, bien sûr. Mais pas besoin de le porter tous les jours.
Merci beaucoup, Emilien.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et je vous préviens, on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut !